Place à la littérature jeunesse, aujourd'hui dans Wagon Livre, je vous propose un entretien avec Sylvaine Jaoui, auteure jeunesse d'une trentaine de romans, pièces de théâtre, documentaires, auteure très souvent récompensée et maman de deux enfants. Elle est également professeure de lettres et elle s'intéresse, à travers des ateliers d'écriture qu'elle anime, à des thématiques comme la filiation, le rapport à la mère, le rapport à l'enfant, le rapport aux adultes en général. Rapport et filiation qu'elle étudie principalement du point de vue du féminin. Elle connaît bien le monde de la télévision car elle y collabore, notamment à travers l'écriture de séries et de jeux. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette amoureuse de Colette alors qu'elle se trouvait à Vézelay, en résidence à la Maison Jules Roy en août dernier, non loin de son poisson rouge Guronzan.
Ah oui, un très important le poisson rouge Guronzan, qui est un élément important et stable de ma vie. Donc je m'appelle Sylvaine Jaoui, je suis écrivain pour la jeunesse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on se sent toujours obligé de rajouter « pour la jeunesse » parce qu'on est écrivain ou on ne l'est pas. Mais je suis très fière quand même de rajouter « pour la jeunesse » puisque les enfants font réellement partie, je dirais même que c'est ma tribu, plus que les adultes, puisque je me sens bien avec eux, dans mes classes, dans mes ateliers d'écriture, et puis quand j'écris.
Sylvaine Jaoui, vous êtes née en Tunisie. Je peux donner la date de votre naissance?
Oui.
1962. Et alors, vous naissez dans un univers de culture, et j'allais dire un univers livresque, entre un grand-père théologien imprimeur, un papa libraire athée et franc-maçon, et une maman enseignante.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Vous étiez dans les raies de la culture et de l'encre.
Totalement. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait mon grand-père imprimeur. Il raconte d'ailleurs que, même petite, quand je retournais en vacances, puisque je suis arrivée en France, j'avais 6 mois, mais je retournais chez mon grand-père souvent, il racontait que j'étais la seule de ses petites filles à ne pas vouloir aller à la plage et à préférer rester, respirer l'encre des livres. Et c'est vrai que c'est resté quelque chose d'important dans ma vie. Et puis j'ai vécu mes 14 premières années de vie dans la librairie de mon père. Et de l'autre côté, j'allais à l'école tous les matins avec ma mère, puisque j'étais élève dans l'école dans laquelle elle a d'abord été institutrice, puis directrice. Et pendant les vacances, il y avait aussi mes tantes qui étaient institutrices. Donc ça faisait beaucoup de monde autour du livre.
Alors Sylvaine Jaoui, vous n'êtes pas sortie de l'univers de l'école et vous n'êtes pas sortie de l'univers de la librairie. Vous pensez justement que l'univers familial et professionnel de la famille vous ont quelque part déjà mis sur les rails de la culture, de la transmission du savoir à travers à la fois l'enseignement et à travers les livres.
Ouais. Alors c'est juste le mot rail que je ne choisirais pas, parce que les rails a quelque chose de raide et de prédéterminé, même si je suis clairement un pur produit de ma famille. Disons qu'ils m'ont mis sur le chemin, parce qu'un chemin, on peut le quitter, on peut prendre des chemins de traverse. Mais oui, il y a de ça. Le livre, c'est quelque chose de fondamental dans cette famille. Et bien souvent, quand on me demande pourquoi je suis devenue écrivain, je dis souvent que comme je voyais toujours mon père et mon grand-père un livre à la main, peut-être que j'ai voulu faire mon intéressante. Au moins, ils allaient lire des livres que j'écrivais. Ça permettait aussi de prendre une place dans cette famille.
Alors, vous êtes bien sûr une adulte. Vous êtes aussi une maman de deux filles. Est-ce que les auteurs jeunesse ont oublié de grandir? On reste dans le monde de l'enfance. Et est-ce que le monde de l'enfance n'est pas la patrie des écrivains?
Alors, je pense que écrire pour la jeunesse, d'une certaine manière, c'est recontacter ses émotions de l'enfance, mais a posteriori, c'est-à-dire que on recontacte ses émotions, mais quand même avec une psychologie d'adulte. Et je pense que si on restait totalement des enfants, on ne serait pas dans cette capacité de s'extraire pour pouvoir en parler. On serait dedans. Mais ce qui est certain, c'est que les auteurs jeunesse, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés, ont un lien très fort à l'enfance, oui.
Thank you.
pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part.
C'est pas compliqué l'amour, qui date du début des années 2000, 2003, 2004, qui a été récompensé par le prix Beaugency. On peut y lire notamment, je vous cite, Sylvaine Jaoui, « Les parents sont des ex-enfants qui n'ont pas toujours réglé leurs problèmes ».
Ben oui, parce que je crois que c'est le problème de tous les adultes. C'est-à-dire que quand on a des parents, on a vraiment l'impression que ce sont des adultes, ce sont des grandes personnes. Et puis en grandissant, on se rend compte que nos parents, il y a des choses qu'ils n'ont pas réglées, puisqu'évidemment, un adulte qui aurait tout réglé serait un adulte mort. Un adulte en vie est un adulte qui a des choses encore à faire. Alors quand on est petit, on a la sensation que papa, maman, c'est tout, il a tout compris, il est grand, il sait tout. Puis à l'adolescence, on se rend compte que, non. Et donc mes héros qui ont 12, 13 ans, 14 ans, se retrouvent dans cette situation-là, de se rendre compte que les adultes, c'est parfois des bébés dans certains domaines.
Notamment, là aussi, je corrobore ce que vous venez de dire, dans « C'est pas compliqué l'amour », un de vos romans, on peut lire « Les adultes, c'était pas autre chose que des enfants dans des corps de grands ». Et c'est très amusant aussi, vous, pointer de la plume le ridicule, les travers des adultes avec beaucoup d'humour. Alors il y a des romans dont les situations sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus graves, mais il y a quand même toujours cette petite pointe, ce sourire qui est là, comme on le retrouve sur votre visage, Sylvain Jaoui.
C'est-à-dire que le traitement, oui, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est évidemment les difficultés que peuvent rencontrer les adolescents en début de vie d'adolescent, c'est-à-dire tout d'un coup une prise de conscience du monde qui les entoure, qui n'est pas du tout un monde Walt Disney ou Bisounours où tout va bien. Les adolescents prennent conscience des difficultés, en rencontrent, et en même temps, j'ai envie de leur parler de ça, mais j'ai besoin du traitement par l'humour pour aussi alléger certaines situations.
Vous êtes dans vos romans toujours dans l'actualité, vous êtes dans le contemporain. Oui. Il y est question d'Internet, il y est question de bagarres, de violences, d'intolérance, d'incompréhension entre jeunes, forcément d'incompréhension entre les adultes, les enfants et leurs parents. Et donc cette littérature jeunesse, c'est aussi une littérature qui met en relief les problèmes des jeunes gens, mais dans une société déréglée.
Oui, c'est ça. Alors...
Et qui peut, pardonnez-moi Sylvain Jaoui, qui peut aussi dérégler les adolescents.
Absolument. Alors, par rapport à cet effet de contemporain de mon écriture, il est évident que si on veut s'adresser à des enfants d'aujourd'hui, moi je ressens le besoin de leur présenter des adolescents qui leur ressemblent. Tout du moins, parce que ces adolescents vont leur ressembler du point de vue des émotions et des difficultés de vie. Si je les place dans un autre siècle, ça peut aussi fonctionner, ou dans un autre espace, c'est possible aussi. Moi, j'ai choisi volontairement de les placer dans des situations et dans un contexte qui est vraiment celui des adolescents aujourd'hui. Je dis toujours que j'écris comme la vie. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est pour la première partie de votre question. Pour la seconde, évidemment qu'on est dans une société... Bon, je pense que malheureusement, à toutes les époques, les adolescents ont rencontré aussi des difficultés. Mais disons que notre société est une société parfois plus compliquée pour les adolescents, pour qu'ils trouvent leur place, pour qu'ils s'imaginent un avenir. Et moi, j'ai une tendance à l'optimisme, donc à leur dire oui, effectivement, la société est compliquée, oui, ta famille est compliquée, mais vas-y, avance sur le chemin, tu vas forcément rencontrer des gens qui vont t'aider à grandir et tu trouveras ta place. C'est ça que j'ai envie de dire aux ados. J'ai pas envie de leur dire que le monde... est un cactus, ça ne m'intéresse pas.
Lorsque nous nous sommes rencontrés préalablement, avant d'enregistrer cet entretien, ici, dans les salons de la maison Jules Roy à Vézelay, vous m'avez rapporté cette réplique d'un adolescent membre d'un jury qui avait récompensé un de vos romans. Et cette réplique interrogative était la suivante, question posée par une adolescente, « Où avez-vous appris à parler adolescent ?»
Ah ouais, ça c'est un des plus beaux compliments en fait qu'on m'ait fait sur mon écriture. Je crois que jamais aucun article élogieux ou jamais aucun prix n'égalera cette remarque, parce qu'il m'a pas dit où avez-vous appris à parler vraiment comme un adolescent, comment vous faites pour écrire comme. Sa phrase, ça voulait dire, voilà, il y a deux mondes, celui des adultes et des adolescents, et toi, on te reconnaît comme sachant parler comme nous. Donc, ça a été une très jolie phrase.
À travers vos écrits, à travers la littérature jeunesse, Sylvain Jaoui, parvient-on à éloigner vraiment les enfants de la télévision ? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, me semble-t-il, ce face-à-face terrible entre le monde de l'image, Internet, l'informatique, la télévision, ouais, et l'écrit.
Ouais. Alors, j'ai pas une vision très angoissée de la télévision, parce que ça devient un médium important dans la vie des enfants, Internet, la télé, la radio, etc. C'est vrai que je préfère voir un enfant un livre à la main, je suis professeur de lettres, j'écris des romans, donc il est certain que j'aime plus voir un enfant un livre à la main. J'ai la sensation qu'il a une autonomie, une possibilité de découverte évidemment plus grande que face à une télévision. Alors j'aurais plutôt tendance à me dire, mais qu'est-ce qui plaît tant à la télévision ? Qu'est-ce qui plaît tant aux enfants par rapport à la télévision ou Internet ? Et qu'est-ce que moi je peux prendre de ça dans mon écriture ? ce qui a donné, par exemple, naissance à ma série Back in Love, qui est une série en 13 tomes. Dans chaque tome, il y a 4 épisodes. J'ai construit ça exactement comme une série télé, avec des personnages récurrents et des épisodes qui durent 30 minutes, parce que je voyais mes filles regarder Undo Stress à la télé, ou toutes les séries. J'ai des enfants qui sont aussi scotchés devant leur télé ou Internet. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je peux prendre de la télévision et comment je peux mettre ça dans mes livres pour leur donner envie de lire?
Et alors, vous évoquez la série Back in Love, 13 tomes chez Rajo Roman. C'est une série transgénérationnelle dans laquelle vous mettez en scène des jeunes gens sur le point de passer le baccalauréat. Donc vous les observez entre finalement la fin de l'été, août, leur rentrée scolaire, jusqu'à l'obtention du fameux sésame, précieux sésame. Et c'est une série sur la relation avec les enseignants, avec les adultes. Vous montrez bien ces deux univers qui se complètent, qui s'opposent, ou qui s'harmonisent parfois sans
bien se comprendre.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces 6 adolescents, comme les enfants d'aujourd'hui, ils sont intégrés dans une famille ou pas. D'ailleurs, on a 6 personnages et chacun a une vie familiale différente. Et on rencontre tout type de parents dans cette série, des parents adolescents, des parents un peu trop sévères ou des parents retraités. On a pour chaque personnage des conditions de famille différentes. Et puis, ils rencontrent sur leur chemin, à l'intérieur de l'école, on a tout aussi une galerie d'enseignants, des types qu'on peut rencontrer, toute une typologie qu'on peut rencontrer dans les établissements encore aujourd'hui, parce qu'on retrouve toujours quand même un peu les mêmes catégories d'enseignants. Et même chose pour les grands-parents, toutes sortes de grands-parents, les grands-parents gâteaux, puis la grand-mère féministe qui au contraire incite sa petite fille à la rébellion. Donc on a comme ça toute une série de personnages, et tout ce monde-là coexiste avec plus ou moins de bonheur, hein, comme dans toutes les familles.
À côté de cette série, chez Rajo Roman, il y a des écrits où vous mettez en valeur des notions clés très importantes et qui mériteraient d'ailleurs d'être un petit peu plus illustrées, aussi bien à l'école que dans la cellule familiale. C'est la notion de la loi, à travers l'image du père. Et j'aimerais, Sylvain Jaoui, que vous nous parliez d'un de vos romans, c'est Spinoza et moi, qui tout de même donne la part belle au père, mais au père absent.
Ouais. C'est la vision que j'ai du monde, c'est-à-dire que je pense que les mères sont là pour nous materner, nous aider, nous faire grandir, nous apprendre des choses, et je crois que la place du père, en même temps qu'il aime, aide, exactement comme la mère, son rôle, c'est d'être représentant de la loi, ce qui permet à l'enfant de mieux grandir, de devenir un adolescent rebelle, ce qu'il faut, casser un peu l'image du père, mais ça permet, à un moment donné, de grandir. Dans mes romans, en tout cas, vous parlez de Spinoza et moi, on a un petit garçon qui ne connaît pas son père, puisque sa mère est tombée enceinte à 17 ans d'un copain de classe. C'est un sujet tabou, lui-même n'est pas au courant, on n'en a jamais parlé devant lui. Et il arrive à un âge, à l'adolescence, où il se met à faire des bêtises, à moins bien travailler à l'école, et où cette loi manque, il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Alors, ce que j'ai envie de dire dans ce roman, c'est « Ouais, t'as pas de papa ?» Et là, tu te cognes à la loi, parce que justement, on t'en a pas assez fourni de la loi. Alors sur son chemin, il va rencontrer un vieux patron de bar qui s'appelle Spinoza,
comme le
philosophe, puisqu'il lit toute la journée l'éthique. Et ce vieux patron de bar a lui-même connu une dérive délinquante au même âge que le héros, sauf que lui n'a pas eu la chance de rencontrer sur son chemin quelqu'un qui représente la loi. Et il a donc fini en prison, passé plus de 20 ans en prison. Et là, tout d'un coup, il rencontre lui-même sur son chemin sa propre image, mais à réparer. Et donc ces deux-là vont s'aimer, alors se détester dans un premier temps et puis s'aimer, c'est-à-dire que Spinoza va devenir une sorte de père, dans le sens, il ne devient pas le père, puisqu'il ne sera jamais le père biologique de cet enfant, mais il devient comme un père. Et c'est surtout ça que j'ai envie de dire aux enfants, dans la vie, parfois, on a un père manquant, on a un père absent, on peut avoir un père mort complètement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas grandir, mais ça veut dire quand même qu'on va avoir besoin de la loi et que cette loi, elle peut être représentée par un enseignant, un grand-père, un voisin, quelqu'un qui tout d'un coup va incarner cette valeur-là. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux romans, même si parfois on parle beaucoup de matriarcat pour mes romans, parce que je parle beaucoup des femmes.
C'est vrai.
Oui, mais je suis d'accord avec ça, je ne le nie pas. Les femmes sont très présentes dans mes romans, parce que ce sont les femmes qui s'occupent du quotidien de l'enfant, beaucoup, et que c'est important que les rôles, d'une certaine manière, soient déterminés, même si c'est un peu archétypal, et ça peut sembler un peu parfois rétrograde, mais je crois que les enfants ont besoin de mères maternantes et d'un père qui incarne la loi. C'est important pour grandir.
Pour me donner du courage, j'ai bu, ça n'a l'air de rien. Un whisky de 12 ans d'âge, ça tombe bien, c'est aussi le mien. J'ai pas encore de moustache, mais j'aime bien passer la lame, bien aiguisée sur mes taches, de rousseur pour plaire aux dames. Que j'irai voir à 5 heures, dans la rue de l'Oiselire, d'où je sortirai vainqueur, allégé de ma tirelire. Ce soir je serai un homme, ce soir j'aurai le secret qu'on n'apprend pas dans les sommes, sur le tableau à la craie. En chemin, je fais le funambule, saute dans les flaques d'eau. Mon cochon tintinabule au fond de mon sac à dos. Attiré par ce cliquetis, des grandes sont tombées dessus, profitant que je sois plus petit et moyen en jujitsu. J'ai tenté la prise de l'aigle au fond de la rue des Martyrs, mais un bon coup de poing en règle me sépare de ma tirelire. Je repense à toutes ces thunes gagnées en tondant la pelouse, allongée sur le bitume, j'ai peut-être ce qu'on appelle le blues. Pour un petit manque d'envergure, face à des bas de plafond, les minables, mon aventure m'a viré dans les bas-fonds. J'allais faire demi-tour, vu qu'il s'est mis à pleuvoir. Quand j'entends la voix de l'amour, alors on n'a pas de devoir. J'ai dévoré mon 4 heures chez elle rue de l'Oiselire, et garde ce souvenir au cœur qui vaut bien toutes les tirelires. Car d'un geste qui me fascine, elle nettoie avec son pouce le chocolat qui dessine une moustache sur ma frimousse.
Dans votre roman La Préférée, qui vient d'être réédité, il y a cette phrase laconique, pleine d'énigmes mais terriblement vraie. Je vous cite, Sylvaine Jaoui, « Les mères appartiennent à une espèce ultra bizarre.
» Oui, les mères appartiennent à une espèce ultra bizarre, mais on en a super besoin.
Alors, autant dans Spinoza et moi, donc votre roman paru chez Casterman en 2006, donc il est question de l'absence du père. Si on s'attache sur un roman plus récent qui vient de paraître, c'est votre cinquième roman chez Casterman et qui a pour titre « Le mauvais œil ». Alors, on pourrait parler du garçonnet Thomas, donc fils unique, 13 ans, dans une famille avec une maman assistante maternelle, un père artisan horloger qui a sa propre boutique. Rapport très tendu, incompréhension entre l'adolescent de 13 ans, Thomas, et son père, qui effectivement rêve d'un fils brillant, presque parfait, qui est sans doute trop exigeant avec son fils. Et puis le fils lui aussi exige sans doute beaucoup trop de son père. En tout cas, ils ne se comprennent pas. Ouais. Ils ne réussissent pas à s'aimer. Ouais. Jusqu'au jour où le père, on peut dire, devient absent pour cause de maladie, il est victime, le père de Thomas est victime d'une rupture d'anévrisme. Et là, il y a toute une réflexion sur l'absence du père et sur le remords et les regrets, finalement, aussi. Et il n'y a rien de plus terrible. Finalement, pour nous, adultes, on peut toujours aussi, en lisant vos romans, se dire « j'ai eu des moments difficiles d'incompréhension, tantôt avec ma mère, tantôt avec mon père, ou avec ma sœur », parce que vous êtes vraiment toujours dans la filiation et la cellule familiale. Oui. Alors j'arrête de parler, Sylvain Jaoui, parlez-nous un petit peu justement de Thomas et de ce père qui veut la reconnaissance et du fils qui veut aussi être reconnu.
Oui, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, le garçon, pour le père, bien souvent, après avoir donné à son père le rôle de héros, quand on est un petit garçon, son papa c'est le plus fort, c'est Zorro, et puis à l'adolescence, papa c'est Zorro, hein, on a besoin de casser l'image du père.
Ou le tyran, puisque c'est le titre, oui. Premier chapitre, c'est « Mon père, ce tyran ».
Oui, parce que c'est quand même un père difficile, et ils sont chacun... un peu dans la caricature, lui d'ado trop rebelle et le père de père un peu trop tyrannique. Et ce que je voulais symboliser, c'est, si on regarde bien dans ce roman, le père est horloger, son rapport au temps est un rapport très particulier. Et Thomas, lui, est un fanat d'informatique. Et donc, il s'oppose aussi, ces deux générations qui s'opposent. Et il s'oppose symboliquement sur le problème, puisque le père reproche sans arrêt à son fils d'être devant son écran. Et le fils reproche à son père d'être derrière les verres de ses montres. Donc, ils sont tous les deux derrière du verre. Mais c'est un rapport au temps qui s'installe. Alors, à un moment donné, ce que je voulais montrer, c'était qu'on pouvait redémarrer dans la vie une relation. Alors là, je montre un redémarrage violent, puisque le père est presque mort, et quand il se réveille, enfin, on n'est jamais presque mort, on est mort ou on ne l'est pas, mais en tout cas, il frôle de très près la mort, et quand il se réveille, il ne parle plus, et il a perdu l'usage total du côté droit. Et ces deux-là vont réapprendre à s'aimer progressivement et on recommence l'histoire à l'envers. Le père va dire ses premiers mots, il va refaire ses premiers pas et donc ils vont se réapprivoiser quasiment en inversant la relation père-fils pour redevenir à la fin un vrai père et un vrai fils dans le sens d'une bonne relation père-fils.
Dans le roman Le Mauvais Œil, la maman fait tout de même tampon entre le père.
Oui, ben comme souvent dans les familles, quand le père et le fils s'affrontent, la mère se met au milieu pour éviter le combat de coq. En général, ça ne fait qu'envenimer la situation, mais c'est, voilà, les mères essaient toutefois.
Lorsque le papa de Thomas... commence des séances de rééducation et réapprend effectivement à marcher comme un enfant nouveau-né. Voici ce que pense Thomas. « Je ne sais pas ce que les parents ressentent quand leur enfant marche pour la première fois, mais moi, je peux vous décrire la joie que j'ai eue à voir mon père faire ses premiers pas. Je me suis avancé et je l'ai serré contre moi. »
On est souvent au bord des larmes.
Ouais, mais là, on est dans l'amour. On est dans l'amour. C'est-à-dire qu'au début du roman, on est dans l'affrontement parce que personne n'ose dire ses sentiments. Et puis là, tout d'un coup, on a un enfant qui prend conscience de la fragilité de son père et puis des efforts de son père. Et au lieu de le voir uniquement comme une image justement archétypale du pouvoir tyrannique, tout d'un coup, il voit la fragilité et le potentiel de son père et il peut donc l'aimer tranquille.
Les dénouements sont toujours heureux.
Oui. Les dénouements sont toujours heureux, c'est-à-dire que dans mes romans, le problème qui était énoncé au départ est résolu à la fin. Bien souvent, il y a encore du chemin à accomplir pour que les choses reprennent un cours normal. Mais oui, j'ai envie de dire aux enfants, les choses s'arrangent. Peut-être que j'ai aussi envie de le penser moi-même.
Comment te dire, ça me fait de la peine. Je vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu zen, non. Tu les fais s'enfuir, sans deviner ce qui les gêne. Ah, ça reste entre nous, vivre avec toi est un cauchemar. Ouais, c'est tous des...
des connards. Ouais, j'aimerais t'aider, j'aimerais te le croire. Mais je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tu as comme un don pour les pousser à l'adultère. Ouais, non, non, ça ne tourne pas rond. Tes amours ont un air d'incarcération quand plus tu mets pour être clair. Tiens, prends donc un mouchoir. J'aimerais t'aider, j'aimerais te croire. Mais je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Oh yeah. Je te connais par cœur, je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur.
Si je prends les dernières lignes d'un autre roman que l'on va aborder, c'est donc le roman a pour titre La préférée, c'est chez Casterman Junior. Les dernières lignes de ce roman sont les suivantes, je les lis. Vivre, c'est prendre tous les risques, surtout celui du bonheur. Alors à 12 ans, je sais que la route est encore longue, mais c'est un tellement beau chemin.
Ouais. C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans La préférée, Le rapport qu'elle avait à sa sœur, qui est une enfant autiste et avec laquelle elle avait de grosses difficultés parce qu'elle ne trouvait pas sa place au sein de sa famille, ça y est, elle a compris maintenant pourquoi sa mère prend tant de temps avec sa petite sœur, que ce n'est pas une question d'amour, que c'est une question de préoccupation. Et donc, bien sûr, il va lui rester du chemin à faire. Bien sûr que ça va être compliqué. Elle n'a que 13 ans, il va falloir avancer dans la vie, grandir avec cette petite sœur autiste, accepter que sa mère soit moins présente pour elle. Mais maintenant, elle a compris pourquoi. Et donc, il y a encore du chemin à faire. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que le problème est résolu en partie, puisqu'il y a une compréhension. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas le happy end ou le Disney. Il y a encore des choses à supporter.
Ouais. Vos romans, Sylvaine Jaoui, sont bien souvent un combat contre l'ignorance, contre le triomphe de la bêtise, contre le machisme. Et les femmes ont souvent le beau rôle, je trouve.
c'est normal.
C'était pas proche. C'est une taquinerie, Sylvie Djaoui.
Oui, alors j'ai un côté encore très enseignante quand j'écris, il y a quelque chose. En fait, être en classe et transmettre des choses à mes élèves ou écrire et transmettre des choses aux enfants, quand j'écris, j'ai des choses à dire. Alors oui, je ne supporte pas dans la vie le racisme, la bêtise, l'homophobie et c'est voilà, il y a des choses que j'entends dans les cours de récréation qui me hérissent et j'ai besoin de dire aux enfants attention là c'est une idée stupide, c'est un a priori, réfléchis à ce que tu es en train de dire quand tu insultes l'autre et qu'est-ce que tu n'aimes pas en toi pour détester l'autre à ce point et voilà. Donc j'ai besoin que quelque chose soit citoyen dans mes romans. Enfin, c'est pas aussi clair que ça quand j'écris. Je me dis pas je vais écrire un roman citoyen, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un personnage qui fait une remarque qui est dans la haine de l'autre et j'ai besoin qu'un adulte dans le roman fasse comprendre à cet enfant-là que ce qu'il vient de dire n'est pas tolérable.
Donc ce qui est important aussi pour vous, aussi bien dans les ateliers d'écriture, aussi bien devant vos élèves et aussi bien dans les romans, ce qui me semble important, je crois qu'on en a parlé ensemble, Sylvaine Djaoui, c'est l'adulte référent.
Oui, j'ai tout à l'heure vous me disiez est-ce que un auteur jeunesse est un enfant? Oui, il y a une part d'enfant. Oui, un auteur jeunesse est quelqu'un qui a recontacté sa part d'enfant. Mais moi, j'ai totalement conscience quand je rentre dans une salle de classe ou dans une salle d'atelier d'écriture ou quand j'écris un roman que l'enfant, l'adolescent a besoin d'avoir en face de lui un adulte référent, qu'il a besoin d'avoir quelqu'un en face qui tienne debout. Et je suis un adulte qui tient debout quand je suis avec les enfants. Donc je vais, dans une salle de classe, être celle qui représente la règle, la loi, en même temps que je suis celle qui transmet du savoir savant, je suis aussi un être humain qui leur dit, voilà, c'est moi l'adulte, là c'est moi qui décide et je te laisse après toute liberté d'être.
Alors vous avez aussi parfois quelques méchants coups de griffe à l'égard des enseignants parce que vous les mettez en scène avec leur travers ou leur ridicule ou alors leur personnage extraordinairement excentrique, ce qui est aussi formidable. On peut être adulte et excentrique.
Absolument.
Après, il s'agit que les élèves n'oublient pas que l'enseignant est cet adulte référent, normalement.
Oui, alors j'ai des souvenirs d'élèves terribles, d'enseignants qui m'ont marqué en bien et en mal, c'est-à-dire d'enseignants qui m'ont dit des phrases terribles sur mon incapacité à la mathématique, par exemple. Ils n'avaient peut-être pas totalement tort, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a des choses qui ne se disent pas à un enfant au risque de le castrer définitivement dans certains domaines. Et j'ai aussi d'excellents souvenirs d'enseignants, notamment de profs de lettres, qui m'ont donné non seulement envie d'écrire, mais de devenir aussi, à mon tour, prof de lettres. Alors, coup de griffe, je sais pas, c'est-à-dire que je décris une galerie d'enseignants comme j'en rencontre dans mon établissement ou dans d'autres établissements, parce que j'ai pas spécialement un esprit de corps par rapport au monde enseignant. Je sais aussi que parmi mes collègues se cachent d'horribles personnages, parfois, ce qui ne m'empêche pas de dire aux enfants, attention, c'est l'enseignant quand même. Mais j'ai conscience et j'ai besoin de dire aux enfants, celui qui classe ses craies par ordre de couleur sur le tableau, qui rend ses copies en ordre décroissant, enfin voilà, il y a des choses comme ça tout d'un coup, d'une rigidité terrible, j'ai besoin de m'en moquer. Voilà, c'est pas très grave, mais j'ai pas envie de dire aux enfants tout ça est très normal. Non, tout ça n'est pas très normal.
Dans le roman La Préférée, il y a une professeure de musique, Madame Calvez, Madame Calvez, qui parle aux élèves en chantant. Et alors, il y a l'intrusion tout d'un coup du CPE, donc oui. Le conseiller principal d'éducation, qui a entendu une sorte de castafiore,
oui,
c'est un peu la castafiore
oui,
du collège.
Castafiore
et donc, il entre dans la classe et elle est en train de « Bonjour, mes enfants !» Voilà, c'est très drôle aussi, on rit aussi.
Oui, c'est-à-dire que les profs excentriques, j'ai tendance à leur donner la part belle quand même, parce que je pense que justement, un prof comme Madame Calvez, qui chante, qui leur parle d'opéra, qui est un personnage un peu atypique, peut leur donner le goût de la musique. Et puis, on s'en souvient de de ces profs-là. Donc, évidemment, c'est un élément comique, mais en même temps, pour des enfants, je pense qu'on se souvient toute une vie d'un enseignant comme ça.
Alors, il y a des familles aussi, parfois, qui apparaissent. Je pense à la famille Kinder. Alors, la famille Kinder, donc, ce sont des voisins de palier, donc, de l'héroïne. Non. Emma, donc, cette adolescente de 13 ans, dont la petite sœur est autiste, cette petite sœur qui lui fait tant honte. Eux qui ont vécu dans une ferme entre Avallon et Vézelay, hein, c'est dans le roman, et qui sont venus à Paris pour que la petite sœur autiste puisse bénéficier des miracles, soi-disant, d'un jeune professeur spécialiste en la matière. Et alors, cette famille Kinder qui est sur le palier, ce sont, je cite, « ce sont nos voisins du quatrième, je les appelle comme ça parce qu'ils me font penser à la pub, celle où il y a la mère trop parfaite qui donne en souriant des œufs en chocolat à des gosses sages. » Ils ont l'air d'être super heureux avec leurs vêtements blancs immaculés alors qu'ils sont censés jouer dans un jardin. La vie est simple, sans difficulté, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque le garçon de la famille Kinder est en fait un...
un futur délinquant.
On pourrait le penser.
Ben oui, cette pub Kinder m'a toujours surprise parce que moi j'ai des enfants et dans un jardin en mangeant du chocolat, moi mes filles ont toujours été totalement crasse-pouilles avec des taches partout. Et quand je regardais cette pub, je me disais mais incroyable, ces enfants qui mangent du chocolat dans un jardin qui n'ont pas de taches. Et donc c'est devenu carrément aussi un mythe. La famille Kinder, c'est la famille qui semble parfaite. Alors évidemment dans mes romans, ces familles Kinder, on les retrouve souvent, elles portent d'autres noms, mais ce sont ces familles qui semblent parfaites. Et évidemment, bien souvent, derrière le vernis, on retrouve des familles dysfonctionnelles, parce que justement, on est tellement sur l'apparence que quand le vernis craque, on retrouve un fils comme le fils Kinder, qui fume en cachette, qui fugue, qui assiste pas à ses cours, enfin voilà.
Hé, hey, James, fais péter le son là-haut.
Fais péter le son là. La 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 la. J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Pas envie de mentir, on est mieux chez les mômes. Ouais, à force de vieillir, on finit par être chiant. Alors je veux rajeunir, bienvenue chez Peter Pan. Fais péter les pop-corns, on va se péter le bide. De l'hiver à l'automne, moi je vais se péter de rire. Car le monde est moche comme le brushing de Marine. Moche comme le métro de Paris. Faut que je range ma chambre et que je trie mes papiers. Car l'État veut que je paye mes impôts et mes PV. Je les paierai bien en billes, mais eux veulent mon pactole. Les points sur mon permis, je te les vends après l'école. Je n'aime pas l'économie, je n'aime que le PS. Car Tom et Jerry, c'est comme la droite et le PS. C'est la crise, ouais, chez moi y'a plus de Haribo. Papa dit que c'est la faute à Sarko.
Moi je veux pas être propre. Non, 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 non. Car faudrait tout mon propre. Non, 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 non. Moi je veux pas être propre. Non, 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 non. Car je comprends rien pour l'instant.
Je suis un bandit et je shoot le shérif. Je roule à plus de 90 en Vélib sur le périph. Ni pull, ni chemise, jogging, bandana. Les parents me connaissent pas, sont comme Fadela Amara. Cendrillon s'est fait la belle avec Ken. Barbie prend les nerfs, elle sort un gun et les crève. Barbie vend en tôle, les sept nains la condamnent. En prison elle croise le père de Pondane. Dans à l'exploratrice, ça fait un tour en Afrique. One, two, three, ici c'est pas l'Amérique. Non, elle a vu Kiaïkou et des parents à bout de nerfs. Quand ils ont vu qu'au Gabon on aimait bien Kouchner. Le traîneau du Père Noël est en panne. Depuis que les princesses lui commandent des iPhones. C'est la crise, ouais, chez moi y'a plus de Tagada. Maman dit que c'est la faute à Carla.
Moi je veux pas être grand. Non, 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 non. Car faudrait tout mon propre. Non, 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 non. Moi je veux pas être grand. Non, 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 non. Car je comprends rien pour l'instant.
Je crois que je suis malade, j'ai le syndrome de Peter. Je veux des régalades, je veux danser toute ma vie comme Sofia Boutella. Plus envie de vivre, je me suicide au Nutella. Papa a des problèmes depuis que maman a des doutes. Elle l'a vu avec Mireille faisant les fous sur Facebook. Il s'est fait taguer, donc il s'est fait plaquer. Moi je me suis fait placer, car papa l'a tapé. Je ne travaille pas, mais pour aider le Darfour. Demain, j'irai faire un crédit chez Carrefour. Tu vas faire quoi? Tu vas le dire à la maîtresse? Arrête, tout le monde sait que ton père il couche avec. Et la belle au bois dormant qui dort plus sans l'exomile. Elle est en psychiatrie selon Mickey Magazine. C'est la crise, ouais. Dans l'industrie, y'a plus de liasses. Mon public dit c'est de la faute de Diaz.
Moi, je veux pas être grand. Non, 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 non. Car faudrait tout comprendre. Non, 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 non.
quand à la fin du troisième couplet j'ai dit c'est la faute de James, alors que c'est la faute à James. Mais vu que tout le monde fait cette faute, en vrai, on laisse. Vas-y, on laisse. Vas-y, on est des gamins de toute façon.
On rit beaucoup, je me répète, heureusement, parce que si La Préférée est une histoire dont la situation familiale est lourde et pesante, à la fois pour la petite fille, mais également pour nous lecteurs, puisque, bon, on a des moments de grande émotion quand vous dites que la petite fille, Aliénor, est une sorte d'alien, d'ailleurs, elle fait ce jeu de mots, Aliénor gémit, geint comme un petit animal blessé. Il y a cette image d'un enfant qui a perdu sa dimension d'humanité et qui est effectivement un poids terrible dans une famille. À côté de cela, on rit énormément. Par exemple, dans « C'est pas compliqué l'amour », Tom discute avec son papa. C'est un grand moment d'échange et de complicité avec le père, puisque ce garçon est amoureux. Enfin, c'est un machiste qui va contraindre sa copine à se couper les cheveux et à se les permanenter pour voir jusqu'à quel point elle l'aime, si elle est capable d'obéir à ses injonctions amoureuses, en quelque sorte. Et à un moment, le père lui dit « Mais tu es amoureux ?» Et le garçon dit « Oui. » Et le père d'une fille. Et le garçon répond « Non, d'un hamster réfugié politique ». Ça me fait énormément rire. Ou alors, certains personnages ont des yeux comme des gnocchis. Je trouve ça très, très drôle. Ça me fait beaucoup rire.
Alors, le père, ce qu'il faut dire, c'est que le père de Tom est un informaticien qui a une vision totalement binaire des choses. Et il est absolument persuadé que son fils va bien. Et s'il va mal, il comprend pas pourquoi. Alors, il fait comme ça une sorte de liste de raisons pour lesquelles son fils pourrait aller mal. Racket, problème à l'école avec ses copains, etc. Et puis, non, il a pas trouvé. Il a juste oublié que son fils pouvait être amoureux. Et quand son fils lui dit qu'il est amoureux, voilà, tout d'un coup, puisque tout dérape, alors la question c'est, est-ce que tu es amoureux d'une fille ?
Je me suis demandé, Sylvaine Jaoui, en lisant les aventures donc d'Emma, la sœur aînée de cette petite fille autiste, il y a une morale, peut-être une règle que vous demandez aux jeunes lecteurs, et pourquoi pas aussi aux adultes, de mettre en application. C'est cette règle qui consiste à transmuter sa colère pour en faire une énergie créatrice, la transformer. Hein. Le poète disait « Tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or », et bien de ta colère faisant justement une force créatrice.
Oui, je crois que... Peut-être parce que j'étais une petite fille très en colère.
Mais oui, c'est ça, je me disais, est-ce que vous êtes une femme en colère ?
Non, plus une femme en colère, enfin j'espère, mais une petite fille en colère, oui. Et je pense que à un moment donné, soit cette colère, on la retourne contre soi, et on peut tomber malade, ou devenir une personne aigrie, angoissée. Soit cette colère, qui est une énergie comme une autre, peut être transmutée. À un moment donné, on raconte à Emma une sorte de conte que j'ai écrit qui s'appelle... la bohémienne rouge, à la robe rouge, et elle rencontre cette bohémienne qui apprend aux enfants à transmuter leur colère en quelque chose, et elle leur distribue soit des lettres de l'alphabet, alors ils deviendront écrivains, soit des notes de musique, ils deviendront musiciens, soit des touches de couleurs, et ils deviendront peintres. Et donc c'est cette... Là, dans ce conte, évidemment, tout est très symbolique, mais c'est comment transmuter sa colère en art, oui. Oui, je crois qu'on a mieux à faire de sa colère que de la retourner contre soi-même.
Sylvaine Jaoui, on arrive au terme de cet entretien, donc je le répète, enregistré ici dans les salons de la maison Jules Roy. Jules Roy, c'est un écrivain qui vous parle sans doute beaucoup moins que Colette.
Alors,
vous qui êtes une balsacienne.
Oui. Alors, ce qui m'a intéressée chez Jules Roy, alors vous voyez à quel point j'ai une vision, enfin une grille de lecture très particulière, c'est que je suis allée chercher chez Jules Roy ses relations quand il parle dans ses romans ou dans ses biographies, les relations qu'il avait avec ses enfants. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir quelles relations cet homme de génie, cet homme de lettres, cet homme perspicace, comment il avait été père. Et on se rend compte qu'il a rencontré les mêmes difficultés que tous. C'est-à-dire que dans sa relation à son fils, il a lui aussi été en difficulté. Il a écrit de très jolies choses là-dessus, que je lirai, que j'ai lu d'ailleurs à ma soirée littéraire. Et parce que c'est important, justement, de voir... comment ça aussi peut se transmuter, cette relation père-fils on peut la retrouver dans les textes, et comment elle vient alimenter une certaine culpabilité.
Donc la relation père-fils est une alchimie qui réussit ou qui ne réussit pas. Et Vézelay, Sylvaine Jaoui, c'est une alchimie dépassée.
Alors pour moi...
Plus que dépassée.
Ah ben pour moi, Vézelay, c'est un lieu d'écriture. Ça fait plus de 15 ans que je reviens là entre 2 et 3 fois par an, parfois de très longues périodes pour pouvoir écrire. Et c'est vrai que c'est un lieu qui m'inspire.
Alors, on ne peut pas passer en revue toute votre production littéraire. Je rappelle la série Back on Love, 13 tomes chez Rajo Roman, gros succès de librairie. Mentionnons donc les titres qui sont réédités, notamment La Préférée. Donc, c'est dès l'âge de 10 ans, et livre roman qui a reçu le prix des écoliers de Rieux-la-Pape et également le prix Martinique 2005. Donc, c'est réédité chez Casterman Junior, donc l'histoire de cette petite Emma et de sa sœur autiste. Je mentionne également donc Le Mauvais Œil, là c'est très récent, c'est votre 5e roman chez Casterman, donc l'histoire de ce garçon qui a beaucoup de mal à supporter son père et qui culpabilise jusqu'à un dénouement heureux où père et fils se retrouvent, on espère en tout cas pour le meilleur, pas pour la suite. Mentionnons Spinoza et moi en 2006 chez Casterman Roman. Que dois-je aussi... Alors, c'est pas compliqué l'amour, puisque j'ai commencé par celui-ci que j'avais trouvé à la librairie Voileau d'Avallon. Très drôle. Et puis, n'oublions pas, alors on va pas pouvoir s'y arrêter, mais aussi les documentaires de Sylvaine Jaoui, notamment un guide de survie au collège. Un petit mot peut-être sur vos documentaires.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, l'écriture documentaire ne m'intéressait pas. Je la trouvais parfois un peu terne dans ce qui était proposé par les maisons d'édition. Et puis j'ai en fait eu envie d'écrire des choses humoristiques, donc des livres comme C'est vraiment comme ça les filles, tout ce qu'il faut savoir sur les filles, ou le guide de survie au collège, qui est un vrai guide pratique avec des fiches que je distribue à mes élèves, d'orthographe, de choses comme ça, et en même temps quelque chose de très interactif, puisque les enfants peuvent écrire, il y a des portraits de profs, il y a des tests, oui, il y a plein de choses un peu drôles, voilà, et j'ai donc toute une partie de mon écriture documentaire qui est proche d'ailleurs de ma pédagogie, hein, c'est des ouvrages bien souvent pédagogiques, mais avec cette touche d'humour que j'ai besoin de mettre quand j'explique des choses aux enfants.
Les écrits documentaires, c'est essentiellement aux éditions La Martinière.
La Martinière Jeunesse.
Oui. La Martinière Jeunesse. Sylvaine Jaoui, il ne me reste plus, avant peut-être d'aller déguster quelques oursons en chocolat et autres douceurs, près de Guronzan que nous avons laissé tout seul dans la cuisine de la maison Jules Roy. Merci Sylvaine
Merci
Jaoui pour cet entretien. Avant de nous quitter et de déguster quelques crêpes, car c'est aujourd'hui la Chandeleur, je rappelle le titre du tout dernier ouvrage de Sylvaine Jaoui. Il s'agit du Carnet secret de la fille future écrivaine aux éditions Oscar, un ouvrage illustré par Linda Corazza et donc signé Sylvaine Jaoui, que vous avez pu entendre ce soir dans Wagon Livre. Quelques manifestations et animations autour du livre dans les jours à venir dans Lyon. Tout d'abord, le vendredi 4 février à Tonnerre, au restaurant Les Pieds sous la Table, se tiendra une rencontre littéraire autour de l'auteur Marion Sigaud, qui sera présente et qui évoquera son dernier ouvrage aux éditions de Bourgogne, Le Mystère du Tableau de David. C'est donc au restaurant Les Pieds sous la Table à Tonnerre. Et le lendemain, le samedi 5 février, à la ferme de la Fosse d'Yonne, vous pourrez rencontrer Claude Chapuis, auteur de La Mémoire des Coteaux, également publié aux éditions de Bourgogne. Ces deux manifestations sont organisées conjointement par la Bibliothèque municipale de Tonnerre, les éditions de Bourgogne et la librairie Plume et Images. Pour les inscriptions et tout renseignement, vous pouvez appeler au 03 86 55 03 82. Notez bien aussi dans vos agendas le 5e salon du livre et des collections qui se tiendra à la salle polyvalente de Vallan, ce petit village route de Clamcy à 5 km d'Auxerre, de 9h à 18h donc à Vallan, dimanche 6 février. N'oubliez pas aussi dédicace autour du livre de Michel Lourenceau le 19 février prochain, de 11h à midi et de 14h à 17h30. Ce sera rue du Pont, à Auxerre, très précisément à la librairie La Pieuvre, hein, où vous pouvez trouver un large choix de bandes dessinées, de mangas et de comics. Michel Lourenço, passionné de dessin et d'aviation, qui dédicace ces deux bandes dessinées, Flottille 66 et Normandie Niemen. Et puis, je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas un rendez-vous proposé par la Bibliothèque Municipale d'Auxerre, rendez-vous qui se tiendra à la Bibliothèque Annexe Sainte-Geneviève le mercredi 9 février à 10h30, en matinée donc, l'heure de l'œuvre d'art sur le thème de la collecte d'images photographiques en noir et blanc autour de l'œuvre de l'artiste Céline Duval. C'est une manifestation qui peut être suivie par les jeunes enfants à partir de 5 ans. Je rappellerai aussi une revue que nous apprécions beaucoup, Pays de Bourgogne. Le numéro 227 est sorti avec des articles toujours sur le folklore et les traditions populaires de Bourgogne, une belle revue que nous apprécions beaucoup. Et puis je mentionne aussi le numéro d'hiver de Vent du Morvan, plus de 1100 exemplaires en kiosque, une revue associative de l'identité morvandelle, et j'attire votre attention sur un excellent dossier consacré à l'écrivain Jean Genet. C'est dans le numéro 37 de l'hiver 2010-2011 de Vent du Morvan. Merci de votre fidélité, je vous retrouve mercredi prochain à 21h sur Radion. Vous aurez l'opportunité d'entendre le dessinateur de bande dessinée Jules, bien connu pour sa série Silex on the City aux éditions d'Argo. C'est lui aussi qui assure les dessins en direct dans l'émission La Grande Librairie sur France 5. Mais ce sera mercredi prochain à 21h. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Excellente nuit. À très bientôt. Au revoir. Thank you.